Bonjour et bienvenue dans Meilleur Allié, le podcast qui vous aide à cultiver la relation la plus importante de votre vie, votre relation avec vous-même. Avec Meilleur Allié, vous le savez, mon souhait c'est de vous aider à vivre une vie professionnelle et personnelle qui vous ressemble, à contribuer aujourd'hui au monde que vous voulez pour demain et à trouver du plaisir à chaque étape du chemin. Dans l'épisode du jour, j'ai choisi un sujet qui devient un poids grandissant pour beaucoup de personnes et qui vous empêche peut-être, vous, de créer du changement dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'éco-anxiété. Mais surtout, je vais essayer de répondre à la question « Comment ne pas désespérer face au changement climatique et ne pas se laisser complètement submerger par le découragement et la peur ?» C'est parti. Alors déjà, l'éco-anxiété est de plus en plus présente dans les médias et dans notre esprit. Et pour beaucoup, l'été que l'on vient de passer a fait prendre conscience des conséquences alarmantes du dérèglement climatique dans le monde. Et pour beaucoup, ces canicules, sécheresses et épisodes climatiques intenses ont été un choc. Pour d'autres, l'éco-anxiété, c'est une peur qui s'est installée progressivement, sans vraiment la nommer, et à chaque fois qu'une nouvelle pessimiste pour la biodiversité est annoncée à la télé, qu'un nouveau rapport scientifique est publié, ou rien qu'en regardant autour de soi la nature et les saisons changer de manière anormale. Cette peur vient nous dire qu'un danger important est là pour notre bien-être présent et futur. Et cette peur de l'avenir et de la détérioration de notre environnement est présente chez beaucoup d'entre nous, à tel point qu'il y a maintenant un mot pour en parler, l'éco-anxiété. Et ce n'est pas rien de mettre un mot sur un ressenti. Déjà, ça permet de légitimer qu'il existe, et c'est reconnaître sa présence. Et pour cause, il y a plus de 80% des 18-30 ans qui disent se sentir concernés et touchés par le changement climatique et ses conséquences, d'après une étude récente. Et même si on en parle de plus en plus, je souhaite moi aussi en parler dans ce podcast, car beaucoup de personnes qui ressentent de l'éco-anxiété ont du mal à en parler. Elles se sentent seules, impuissantes et incomprises. Aujourd'hui, dans cet épisode, je ne vais pas vous parler du changement climatique et des causes. Ça, il y a beaucoup d'autres ressources sur Internet qui vont pouvoir vous éclairer là-dessus si vous avez besoin d'en savoir plus. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'état d'esprit dans lequel on est quand on en vient à se demander, finalement, à quoi bon ? À quoi bon faire des enfants ? À quoi bon faire des projets ? À quoi bon regarder les informations ? À quoi bon penser à l'avenir ? À quoi bon essayer de sauver ce qui peut encore l'être, puisque c'est trop tard, trop énorme, et que les choses et les gens ne changent pas ou pas assez vite ? Et c'est ce type de pensée qui précisément va créer du découragement et du désespoir. Parfois aussi, ça va créer un énorme désalignement entre ce qu'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Parce qu'on peut avoir des pensées de cet ordre-là et puis ne pas réussir à les exprimer et continuer à faire comme avant, comme si on ignorait tout ce qu'on pense et tout ce qu'on ressent. Et ce type de pensée, à quoi bon, va nous paralyser et nous faire renoncer. C'est ce qui nous rend résignés et attentistes. Alors, on en vient à se couper des autres, on fait des choses qui ne nous rendent pas forcément fiers, on essaye surtout, en fait, de s'occuper l'esprit autrement, pour se divertir, parce que là, on n'est pas capable de faire autrement. Et les choses continuent d'empirer, parce que c'est ce qui continue d'alimenter nos pensées décourageantes. Et c'est une boucle qui se crée et qui s'auto-alimente. Si vous avez écouté l'épisode 5 sur le modèle CPEAR, vous avez peut-être reconnu chaque étape d'un modèle qui ne vous rend pas service. On va avoir les circonstances, le monde tel qu'il est, le changement climatique, les pensées que l'on a à ce sujet, à quoi bon, les émotions, le découragement, la peur, et puis les actions qui vont plutôt être de l'ordre du repli, voire de l'inaction. Et le résultat, c'est que les choses ne changent pas et qu'on alimente les circonstances qui nous ont fait ressentir tout ça à la base. Et ça ne rend pas service ni à soi, ni aux autres et ni au monde. Et pourtant, et c'est là que je veux en venir, c'est que le monde a profondément besoin de personnes sensibles à ces changements et qui décident de passer à l'action chacune à leur manière. Donc si vous vous sentez coincé dans ce type de schéma, ou que vous avez la sensation de réussir à en sortir puis de retomber dedans de temps en temps, c'est normal. Parce que les circonstances et les faits sont là et c'est difficile aujourd'hui de les ignorer. Alors non, vous n'êtes pas malade, ni trop sensible, ni trop pessimiste, ou trop idéaliste, ou trop émotif, je ne sais pas. Au contraire, C'est tout à fait rationnel et sain de prendre conscience et de s'inquiéter quand les choses tournent mal, quand notre environnement connaît des dangers. Le problème apparaît quand cette conscience vous paralyse et vous déprime. Car je le répète, le monde a vraiment besoin de gens comme vous, qui sont sensibles à sa dégradation et qui ont envie de le préserver, ou de le changer pour le mieux. Donc dans cet épisode, je vais vous partager 4 manières de retrouver l'élan d'agir et sur lesquelles vous pouvez travailler. Le premier sujet, c'est passer du temps dans le présent. C'est quelque chose qui passe souvent à la trappe quand on ressent de l'éco-anxiété et de l'anxiété de manière générale. C'est normal, car notre cerveau et nos pensées sont en alerte pour le futur à moyen et long terme. Ce que je vous propose à la place, quand vous observez que vous ressentez de l'anxiété, c'est de vous concentrer davantage sur le présent. Passer du temps dans le présent, ça va déjà permettre de calmer le système nerveux et de se sentir en sécurité tout de suite et maintenant. Passer du temps dans le présent, c'est ressentir ce que vous ressentez maintenant et c'est avoir des pensées à propos de ce qui se passe là, tout de suite. Vous allez observer ce qui se passe en vous et autour de vous, maintenant, et c'est tout. Là, tout de suite, si vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas en danger. Vous pouvez prendre conscience de votre respiration, regarder le paysage autour de vous, sentir la chaleur de votre habitation ou la fraîcheur de l'extérieur ou inversement. Et vous pouvez choisir de remarquer et apprécier dès maintenant ce qui est là et ce que vous avez peut-être peur de perdre dans le futur, mais qui est là maintenant, comme la beauté de la nature, le chant des oiseaux, les couleurs des arbres, les animaux, les personnes et les lieux que vous aimez. Et quand on ressent de la gratitude, on ne peut pas ressentir au même moment de la peur. Alors autorisez-vous à faire un peu plus de place dans votre esprit pour ce qui vous réjouit aujourd'hui. Et c'est précisément ce qui vous donnera aussi la force d'agir pour préserver tout ça dans l'avenir. Et je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous devriez vivre complètement au présent. Simplement, je vous invite à observer dans votre journée combien de temps vous passez actuellement à penser au présent versus le temps que vous passez à penser au futur. À la réunion qui vient après, à ce qui va se passer ce week-end, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, etc. Souvent, on passe beaucoup plus de temps à penser à après qu'à maintenant. Et donc, si vous remarquez que c'est votre cas, vous pouvez déjà commencer par passer 5 minutes dans le présent et vous mettre peut-être un minuteur pour ça. Donc ça, c'est plutôt une piste à explorer de manière relativement quotidienne pour calmer le jeu à l'intérieur de soi quand on sent que notre esprit est en alerte et constamment préoccupé par le futur. Maintenant, je vais vous parler d'une deuxième manière de retrouver de l'élan et de se remettre en mouvement. Cette deuxième manière, c'est accueillir ses émotions et les regarder en face. Alors oui, j'ai déjà fait un épisode dédié à l'accueil des émotions, c'est l'épisode 4, mais je tiens quand même à en parler parce que c'est particulièrement important quand il s'agit d'éco-anxiété. On parle beaucoup d'anxiété comme si c'était la seule émotion que ressentent les personnes sensibles au changement climatique. En réalité, vous ressentez sûrement tout un panel d'autres émotions, comme la tristesse ou la colère. Et cette tristesse peut venir à l'idée de voir une partie de la nature disparaître ou de savoir que des personnes souffrent dans le monde de canicules destructrices. La colère peut se ressentir face à un système qui nous a menés là, face à des personnes que l'on estime être responsables, qui sont dans le déni ou qui choisissent de perpétuer les causes du dérèglement. Et donc, au-delà de l'éco-anxiété, on parle donc aussi davantage de souffrance écologique ou de solastalgie. Donc là, c'est pas de vous abreuver de termes qui m'importe, c'est simplement de comprendre que les ressentis liés au changement climatique vont même au-delà de la peur. C'est un peu comme pour les étapes d'un deuil où l'on est traversé par des émotions multiples, en passant par le déni, la colère, la tristesse. Et il s'agit en fait d'une certaine vision du monde et de l'avenir que l'on doit accepter de voir disparaître. Et c'est peut-être une vision du monde que l'on avait quand on était petit, ou il y a encore quelques mois ou années. Et c'est cette vision du monde que l'on a parfois du mal à accepter qu'elle change. Alors bien souvent, on se retrouve là avec la conscience d'une perte, mais sans l'espoir qui permet ensuite de continuer à avancer. Et c'est ça qui va nous induire dans une certaine forme de paralysie. Et c'est en prenant le temps d'accueillir ces émotions que l'on va pouvoir prendre conscience de ça et traverser chaque étape. Il y a un peu plus d'un an, j'ai participé à un week-end sur le thème de l'éco-sérénité, inspiré par l'approche du travail qui relie. Le travail qui relie, c'est une approche en quatre étapes, développée dans les années 80 par Johanna Messi, qui a développé cet accompagnement pour accompagner des collectifs de militants sujets au burn-out et à l'épuisement liés à leur engagement pour des causes qui leur tiennent à cœur. Et donc dans cette méthodologie du travail qui relie, la deuxième étape est focalisée sur l'accueil des émotions. Cette étape s'appelle « Honorer sa peine pour le monde ». Elle permet de mettre des mots sur ses peurs, chagrins, colères et désespoir, et de les reconnaître aussi chez les autres. Cette étape m'avait profondément marquée et aussi beaucoup soulagée. C'est un peu curieux dit comme ça. Mais en fait, ça ressemble un peu aux écolos anonymes, et ça peut sembler même très perché pour certains, mais qu'est-ce que ça fait du bien de partager avec d'autres sur ce qu'on ressent ? Et si comme moi vous appréciez les connexions profondes avec les personnes, ça devrait développer chez vous aussi un sentiment intense de solidarité et de connexion avec les autres. Je vous mettrai en description les informations vers le travail qui relie et vers le collectif Edeni avec qui j'en avais fait l'expérience l'année dernière. Pour moi, c'était une expérience très intéressante de découvrir et de vivre ces étapes du travail qui relie parce que je suis arrivée anxieuse, découragée et avec une certaine lourdeur et je suis repartie vraiment soulagée, entourée et remotivée. Et en petit groupe, on a vraiment partagé et verbalisé collectivement notre solastalgie et nous sommes remobilisés ensemble à travers les différentes étapes. Et en fait, je suis vraiment ressortie de là en me disant que je n'étais plus seule. Et c'est ce qui m'amène à la troisième manière de retrouver de l'élan, c'est se rapprocher des gens, ne pas rester seule. Se rapprocher des gens, c'est peut-être la dernière chose que vous avez envie de faire quand vous sentez le pessimisme et le désespoir ambiant vous envahir. Et pourtant, c'est un antidote très puissant quand on choisit son entourage avec soin. Partager son éco-anxiété à une personne qui ne sait pas quoi en faire ou qui ne l'a jamais ressenti soi-même, c'est une excellente manière de se sentir encore plus seul au monde. En revanche, se rapprocher de personnes qui savent de quoi vous parlez, qui sont sensibles aux mêmes choses que vous et partagent des émotions similaires, c'est un levier incroyable de connexion avec les autres. Et la clé ici, c'est de vous entourer de personnes qui pensent qu'il est possible d'agir. Parce que c'est ce qui va alimenter leur moteur pour sortir de l'anesthésie et de l'inaction. Pour ça, vous pouvez vous rapprocher d'associations, de collectifs, de groupes de parole, de tiers-lieux, de professionnels de l'accompagnement. Il y a vraiment énormément de personnes, plus qu'on ne croit, qui agissent ensemble pour retarder et atténuer les effets du changement climatique et créer des sociétés qui sont plus vertueuses. Alors, si c'est quelque chose qui vous appelle, rapprochez-vous de ces personnes, parce que l'envie d'agir et de créer des alternatives est contagieuse. Et il existe aussi de plus en plus de thérapeutes ou de coachs qui, comme moi, sauront vous écouter et auront à cœur de vous aider à trouver votre propre manière d'agir. Je vous lis un passage du livre « Une autre fin du monde est possible » de Pablo Servigne, qui a été un livre extrêmement marquant et motivant pour moi. Il explique qu'avoir conscience des enjeux climatiques n'implique pas une vie d'ermite. La solitude de celui qui prêche dans le désert vient justement du fait qu'il prêche. Il est judicieux de laisser chacun évoluer à son rythme et de se connecter aux autres par affinité. L'important est de saisir que nous ne sommes pas seuls, loin de là. Les connexions se font très vite et les réseaux sont d'autant plus puissants qu'ils sont composés de personnes qui ont cheminé intérieurement et qui se sont engagées extérieurement. Donc mon invitation pour vous, c'est de pouvoir constituer ou rejoindre votre propre réseau de personnes qui agissent pour que vous puissiez vous sentir moins seul. Je passe maintenant à la quatrième manière de retrouver de la sérénité et de l'élan, c'est agir pour quelque chose qui a du sens pour soi. Vouloir changer le monde, c'est un gros morceau, hein. On est d'accord, c'est un énorme morceau. Si gros qu'on ne sait même pas par où commencer. Et à trop chercher quelle est la meilleure chose à faire ou la plus utile, on ne fait rien ou on s'éparpille. Et la question la plus utile à vous poser, c'est qu'est-ce qui me touche moi ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? et en partant de ce qui vous touche ou vous révolte, vous, personnellement, vous aurez là un carburant durable pour votre mise en mouvement. Ça demande d'apprendre à bien vous connaître. Et si vous n'en savez rien de ce qui vous touche et vous révolte, vous pouvez décider d'être votre meilleur allié en développant de la curiosité pour vous-même et en faisant un travail d'introspection. Quand vous cherchez ce qui a du sens pour vous, c'est important de bien garder en tête que le sens est personnel. Peut-être que ce qui compte pour vous, c'est de protéger les animaux marins et les plages de la pollution. Et pour votre meilleur ami ou votre frère, ce sera de donner accès à un maximum de personnes à une alimentation saine, sans produits chimiques. Et vous aurez raison tous les deux. En fait, il y a une quantité infinie de choses qu'il est possible de faire et de causes pour lesquelles il est possible de s'investir. Donc, utilisez votre sensibilité pour vous rappeler de ce qui vous a peut-être touché par le passé, ce qui vous émeut, ce qui vous révolte. Peut-être que vous pouvez vous demander quel type d'information à la télé vous fait mal au cœur. Ou si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez finalement réellement changer dans ce monde ? Agir, ça démarre souvent par de petites choses. Se renseigner, lire un livre, regarder un documentaire, découvrir une association à côté de chez soi et y passer quelques heures comme bénévole, contacter une personne sur LinkedIn qui travaille dans un domaine qui vous semble utile, manger végétarien une fois par semaine, mettre les mains dans la terre en installant des plantes à sa fenêtre, réfléchir à la manière dont on peut faire évoluer son emploi pour qu'il ait un meilleur impact sur les personnes et sur son environnement. Le passage à l'action, même minime, permet déjà de sortir de l'impuissance et d'enclencher une dynamique vertueuse. C'est comme quand vous vous sentez tout mollasson ou mollassonne dans votre lit le dimanche matin et que vous décidez de vous lever quand même pour aller prendre un peu l'air. Et en fait, rien que de mettre vos baskets, finalement ça vous motive à aller faire un footing d'une heure. Et bah voilà, c'est ça l'engagement. On met un pied dedans et puis bah finalement, de fil en aiguille, on se retrouve à faire beaucoup plus qu'on ne s'imaginait capable de faire. Et ce que vous allez aussi gagner au passage, c'est de l'alignement. Parce que vos actions vont progressivement être de plus en plus cohérentes avec vos pensées et vos ressentis. Vous allez faire des choses qui vous correspondent et vous en ressentirez de la fierté et de la gratitude pour vous-même. Vous vous rapprocherez doucement du type de personne que vous voulez être dans le monde qui se prépare. Et c'est ça aussi, être son ou sa meilleure alliée. Alors évidemment, quand je parle du monde, je parle pas forcément du monde entier. Je parle aussi de votre monde, à l'échelle de votre famille, de votre entreprise, de votre quartier, de votre ville, de votre réseau d'amis, votre réseau familial. Et on n'a pas besoin de changer le monde entier pour agir. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous résume les quatre grandes pistes proposées pour vous aider à transformer votre éco-anxiété en envie d'agir. Première piste, passez du temps dans le présent et prenez le temps d'apprécier ce qui est là. Deuxième piste, regardez toutes vos émotions en face et accueillez-les. 3. Rapprochez-vous des autres et créez des liens pour ne pas rester seul. Et 4. Trouvez ce qui a du sens pour vous et vous donnera envie de passer à l'action. Avec ces 4 étapes, le but, c'est que vous puissiez passer d'un modèle d'inaction qui s'appuie sur des pensées de type « à quoi bon ?» à un modèle d'action qui s'appuie plutôt sur des convictions telles que « ça vaut le coup d'agir pour protéger ce qui compte pour moi »,« c'est possible, il existe déjà des initiatives dont je peux m'inspirer », »,« je ne suis pas seule » et « je peux trouver ma propre manière de contribuer à ce qui a du sens pour moi ». Voilà, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram ou via un avis sur votre plateforme d'écoute de podcast. Voilà, je serais vraiment ravie d'en savoir plus sur vos ressentis sur cette thématique. Et puis, si vous avez envie d'être accompagné individuellement vers votre mise en action, d'être entouré et compris ou comprise dans votre cheminement, je vous invite à découvrir mes offres d'accompagnement sur mon site internet www.meilleurallié.com. Voilà, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.